La question urbaine a bien évolué depuis les premiers foyers de sédentarisation, la construction des premières villes. C'est un phénomène urbain qui a bien changé, s'est développé avec une explosion en même temps que l'industrialisation. Et surtout un fait nouveau, depuis le début des années 2000, 2006 exactement, la population urbaine mondiale a dépassé pour la première fois les 50% de la population mondiale. Donc nous sommes plus nombreux en ville qu'à la campagne. Alors dans les pays comme la France, ça fait bien longtemps que ce seuil a été dépassé et les villes sont devenues les cœurs de l'activité de nos sociétés. Et elles sont aujourd'hui, il me semble, dans une phase de réaménagement et de restructuration, donc ce qu'on appelle aussi toutes les rénovations urbaines. Alors sur Caen, on en a plusieurs exemples, hein. Il y a notamment le chantier des Rives de l'Orne qui en donne un exemple. Mais bon, c'est pas le cas seulement sur Caen, il me semble que c'est beaucoup plus diffus, hein, un peu partout en France. Et pour moi, il y a cinq dynamiques urbaines majeures aujourd'hui qui vont me permettre un peu de cerner des contours de la question urbaine aujourd'hui. Donc la première dynamique pour moi qui est ancienne et générale, c'est ce qu'on peut appeler la ségrégation socio-spatiale, c'est-à-dire une hiérarchisation sociale qui se retrouve matérialisée dans l'espace. Donc ça va des quartiers riches jusqu'aux gated communities, hein, ces quartiers fermés, jusqu'au quartier pauvre, qui peuvent aller jusqu'au bidonville, hein. Bon, une petite anecdote comme ça, par exemple au Kenya, c'est plus de 90% de la population urbaine, hein, qui survit dans les bidonvilles. Alors, sur cette question de la ségrégation socio-spatiale, je pense qu'en France et dans les pays similaires, on va davantage parler aussi de gentrification. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte la dynamique de ségrégation d'aujourd'hui en France, et ça accompagne le contexte d'importantes rénovations urbaines. Donc la gentrification, c'est quoi? C'est en fait l'embourgeoisement des villes, c'est-à-dire la substitution des classes populaires par les classes moyennes et supérieures. Alors la deuxième dynamique, pour moi, c'est à la fois l'étalement urbain et le zonage. J'ai choisi de les regrouper. C'est ce que Henri Lefebvre appelle la ville éclatée, finalement, hein, éclatement de la ville, avec une densification continue du tissu urbain qui grignote le rural, mais c'est aussi, par exemple, la distance entre l'habitat et le commerce qui a augmenté de 30% en 15 ans, ou la distance entre l'habitat et le travail qui a augmenté de 26%. Donc, étalement urbain, et c'est aussi zonage, c'est-à-dire une spécialisation fonctionnelle des espaces, donc une division en zone commerciale, zone pavillonnaire, zone industrielle, etc. C'est-à-dire une discontinuité aussi dans l'espace, mais aussi pour la personne dans sa vie quotidienne. Donc qui traverse différentes zones spécialisées à travers sa vie quotidienne. Donc troisième dynamique, c'est la marchandisation et l'accent mis sur la circulation et la mobilité au détriment de la sociabilité. Donc l'urbanisme a, me semble-t-il, avant tout pour fonction, s'est donné avant tout pour fonction de favoriser la circulation, d'abord la circulation des marchandises, et ça s'incarne très bien dans la valorisation de l'automobile et des artères autoroutiers, chez un Le Corbusier aussi, par exemple, ou dans les lignes TGV et autres aéroports qui doivent relier les grandes villes entre elles. C'est aussi la valorisation de la marchandise au détriment de la sociabilité directe. Donc, par exemple, la préférence donnée aux grandes galeries marchandes plutôt qu'à des places conviviales. C'est aussi plus largement le fait que les contacts sont plus nombreux, mais paradoxalement, il y a de moins en moins de rencontres véritables. Alors ça, c'est pas nouveau. Déjà, Weber en parlait dès le 19e siècle, dans un contexte assez particulier en Allemagne, puisque c'est au moment où l'Allemagne connaissait une explosion urbaine. Et 19e siècle, pour donner une idée, une ville comme Essen passe de 9 000 habitants en 1850 à plus d'un million en 1900. Donc voilà, ça donne une image un peu de ce qu'a été cette explosion urbaine. Alors, quatrième dynamique, c'est ce que j'appelle, ou bien d'autres l'urbanisme sécuritaire, c'est-à-dire que le bâti est pensé et conçu pour prévenir les crimes et délits, favoriser la surveillance des populations et améliorer l'intervention de la police. Alors, tout chantier aujourd'hui, un peu important, doit prendre en compte les aspects sécuritaires. Il est même façonné par là, par ces enjeux-là. Alors ça va jusqu'à l'encastrement des boîtes aux lettres, jusqu'à des dimensions pour les fenêtres, voilà, tout un tas de réglementations qui s'inscrivent donc dans l'architecture. Et cinquième et dernière dynamique, qui pour moi regroupe en fait un peu toutes ces dynamiques-là, et qui est particulièrement d'actualité, c'est finalement la métropolisation. Donc on en parle beaucoup aujourd'hui, notamment avec Nantes et Notre-Dame-des-Landes, par exemple, le projet d'aéroport qui est là-bas, mais c'est aussi toutes les grandes villes. Et par exemple, aujourd'hui, on parle de Caen Métropole, qui est un syndicat mixte. Hein. Voilà. Donc, et puis ailleurs aussi, hein, vous avez Rennes, Toulouse, Rennes Métropole, Toulouse Métropole, Lille Métropole, etc. Donc, et finalement, la métropolisation, c'est quoi ? C'est une dynamique spatiale tendant à organiser un territoire autour d'un centre urbain dense. Et c'est en fait une polycentralisation, hein, puisque c'est-à-dire que la construction de multiples villes métropoles, de multiples centres qui sont interconnectés entre eux, et ces métropoles concentrent les activités et services, sont les nœuds des macrosystèmes techniques de transport, d'énergie, financiers, etc. Donc cinq dynamiques un peu voilà qui permettent de cerner des enjeux liés à la question urbaine, et il me semble que cette question-là devient de plus en plus un enjeu majeur, surtout dans un monde essentiellement urbain, avec une concentration de la population, et donc la question de l'espace et de la vie sociale dans des espaces pleins, avec les dégradations écologiques aussi que l'on connaît. La ville concentre les pollutions, les activités industrielles, et les nœuds de transport et d'énergie aussi, hein, avec aussi les tensions urbaines, alors à la fois au sens de l'adaptation au rythme mécanique de la ville, de l'éclatement de la vie, hein, mais aussi par la ségrégation et les révoltes sociales qui vont avec. Donc voilà, c'est pourquoi, pour moi, il me semble qu'il est probable que les luttes d'émancipation à venir soient de plus en plus liées à des crises urbaines et à des révoltes qui s'opposent à l'aménagement du territoire, sachant que derrière cette idée d'aménagement du territoire, il y a aussi l'aménagement de la vie quotidienne et finalement l'aménagement de nos existences. Pourquoi j'ai choisi de présenter quelques exemples de pratiques qui ont une visée émancipatrice liée à ces enjeux, donc habitat collectif, jardin collectif et un collectif militant. Donc je vais commencer par l'habitat collectif. Habitat collectif tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire davantage les coopératives d'habitants, c'est né dans les années 60, essentiellement dans les pays scandinaves et anglo-saxons. En France, ça va émerger après 68, mais ça va pas durer très longtemps, ça va rapidement péricliter. Et finalement, il existe en France très peu d'expériences d'habitat collectif urbain du genre coopératif d'habitants. Et finalement, l'habitat collectif, on va essentiellement le retrouver du côté des expériences de squat ou plus classiquement dans des colocations. Il y a toutefois, près de Caen à Louvigny, un exemple d'habitat collectif de type coopérative d'habitants. C'est l'association, enfin, il y a une partie coopérative et une partie associative, et c'est l'association des éco-bâtisseurs. C'est un projet qui a émergé fin 2006. Chez des militants associatifs d'économie solidaire, qui vont avoir beaucoup de chance, puisque un terrain va leur être cédé directement par la mairie de Louvigny. Or, c'est justement l'accessibilité à un terrain qui est extrêmement compliquée dans ce type d'expérience. Hein, la plupart de ces projets n'arrivent jamais à terme du fait justement qu'ils trouvent pas de terrain. Donc, une quinzaine de familles vont se regrouper. Elles vont définir la base des valeurs communes, c'est-à-dire construire un ensemble d'habitats groupés avec jardin partagé et local commun, selon des critères écologiques, dans une démarche collective tant de construction que d'habitation, en ayant le souci de la mixité sociale et de l'accessibilité économique. Voilà, ça c'est un peu le cadre du projet. Alors bon, je passe sur les détails, mais la réalisation du projet a été très compliquée, à la fois pour trouver des maîtres d'œuvre, du fait qu'il n'y a pas de législation prévue pour ce type d'expérience, donc toutes les démarches administratives auprès des banques, auprès des pouvoirs publics extrêmement compliquées, une absence de reconnaissance de cette façon de vivre, ça va un peu avec, hein. Et aussi des aléas qui sont intrinsèques à ce type de projet. Par exemple, il y a eu un artisan qui a mis la clé sous la porte, voilà, donc ça retarde d'autant plus le chantier, ou alors un architecte qui ne convient pas, donc il a fallu changer d'architecte en cours de route. Et il y a surtout une recomposition permanente des familles intéressées, du fait que le projet a mis énormément de temps et a été finalement très lourd à porter. Donc il y a 13 familles au départ, il va y en avoir 15 à l'arrivée, et finalement c'est une quarantaine de familles en tout qui vont approcher ce projet, essentiellement par cooptation, hein, et donc pour une bonne partie qui ne vont pas y rester. Alors les premiers emménagements vont avoir lieu que début 2011, donc voilà, le projet commence 2006, et finalement les premiers emménagements 2011, soit 4 ans et demi après le lancement du projet. Alors aujourd'hui, ça donne 13 logements qui vont de 80 à 130 mètres carrés, avec une maison commune. Chaque maison a un espace privatif de 50 mètres carrés de terrain, et 3000 mètres carrés de terrain sont mis en commun. Donc il y a l'idée, voilà, d'articuler espace collectif et espace privé, avec un budget global de 2,2 millions d'euros, entièrement autofinancé par les familles concernées, sauf une aide de 80 000 euros du conseil régional. Voilà. Ce qui veut dire qu'en moyenne, chaque famille a dû débourser 160 000 euros environ. Donc voilà, il y a un investissement financier non négligeable, quoi. Donc le fonctionnement de ces 13 familles repose sur la recherche du consensus, voilà, donc démocratie directe par recherche du consensus, à la fois pour des raisons axiologiques, clairement ce sont pour beaucoup des gens qui portent des valeurs autogestionnaires, mais aussi parce que ce n'est pas qu'une association, c'est aussi une communauté de vie, avec certains qui sont endettés pour 25 ans, donc il y a intérêt de s'entendre, quoi. Et d'ailleurs, il y avait une sélection à l'entrée, et clairement, les personnes de l'UMP et du Front National étaient exclues de ce projet-là. Voilà, ils n'en voulaient pas. Et puis, pour reprendre les termes de quelqu'un que j'ai interviewé là-dessus, hein, c'est finalement un cercle de militants professionnels et de sympathisants, en tout cas proches des idées de l'économie solidaire pour les 4/5e. Hein, donc voilà, ça donne un peu une idée. Donc c'est... Avant d'être une communauté de vie, finalement, c'est d'abord une communauté culturelle et politique. Alors, d'autre part, il persiste des inégalités qui se matérialisent dans la conception des maisons. C'est un projet qui mêle propriété privée et partie commune. Donc, c'est là où la coopérative, en fait, entre en jeu pour mêler tout ça. Et chaque famille doit acheter de manière classique sa propre maison selon ses envies et surtout, évidemment, selon ses moyens. Donc, il y a en réalité, hein, ça donne, voilà, il y a des maisons qui font 130 mètres carrés et d'autres qui font 80 mètres carrés. Voilà. Bon, enfin et surtout, ce type d'expérience semble difficilement généralisable. À part sur Louvigny, cette expérience-là, en fait, il y en a même pas une dizaine en France. Alors pourquoi ça semble difficilement généralisable ? C'est qu'elle regroupe des militants qui se connaissent de longue date pour la plupart, qui disposent d'un capital financier de départ, qui dispose aussi d'un capital de connaissances, de compétences. Donc il y avait un ingénieur de l'ADEME, par exemple, ce qui aide pour réaliser les plans, notamment quand on veut faire du bâti écologique. Des accompagnateurs de projets associatifs, ce qui peut aider aussi, notamment pour se dépatouiller des problèmes administratifs, etc. Et surtout, il n'y a pas eu besoin de chercher de terrain. Et pour autant, ils ont eu affaire à de nombreuses difficultés, et les ambitions du projet initial ont dû être revues à la baisse, notamment sur le fait de concevoir et bâtir soi-même. Par exemple, il y a eu quelques chantiers collectifs, mais finalement beaucoup moins que prévu. Ça a été essentiellement délégué à des artisans. Et ce qui a créé en fait une certaine crispation sur la sphère privée. Et finalement, il y a un repli sur son habitation et finalement les parties communes ont été un peu laissées de côté et on verra après, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est en train d'être vu en ce moment, quoi. Donc expérience intéressante toutefois, parce que on néglige probablement les effets d'une vie collective, à la fois pour favoriser la sociabilité directe et l'interconnaissance, mutualiser, améliorer les conditions matérielles d'existence, hein, tout simplement dégager des espaces communs, des véhicules communs qui ont été voilà, là-bas ils ont des voitures mises en communauté, la garde partagée des enfants, des outils communs. Par exemple, il n'y a pas besoin d'une tondeuse pour l'utiliser 5 fois par an par pavillon. Là, ils ont une tondeuse commune, voilà. Mais c'est aussi réenraciner les personnes au sein d'un espace qui n'est pas tant un territoire qu'un lieu de la vie ordinaire dans lequel je suis reconnu. C'est-à-dire en fait un espace intermédiaire et paracommunautaire au croisement entre la sphère intime, c'est aussi la sphère de l'isolement, et le vaste espace public qui est aussi celui de l'exposition de soi-même. Donc c'est probablement la condition pour se réapproprier l'espace. Et c'est ce dont parle André Gors dans Métamorphose du travail. Donc il y a une longue citation, je me permets de la donner entièrement, parce qu'elle me semble assez intéressante, hein, au sujet des coopératives d'habitants. Donc je le cite. La communauté de base peut ainsi devenir l'espace microsocial intermédiaire entre la sphère privée et la sphère macrosociale, publique. Elle peut protéger les individus contre l'isolement, la solitude, le repli sur soi. Elle peut ouvrir la sphère privée sur un espace de souveraineté commune, soustrait au rapport marchand, où les individus autodéterminent ensemble leurs besoins communs et les actions les plus appropriées pour les satisfaire. C'est à ce niveau, donc l'espace intermédiaire, c'est à ce niveau que les individus peuvent redevenir maîtres de leur vie, de leur mode de vie, du contenu et de l'étendue de leurs désirs ou besoins et de l'importance des efforts qu'ils sont prêts à consentir. C'est dans l'expérience pratique des activités microsociales que peut s'ancrer une critique du modèle de consommation capitaliste et de rapports sociaux dominés par les fins économiques et les échanges marchands. C'est à ce niveau, enfin, que peuvent se tisser des liens sociaux de solidarité et de coopération vécue. Et que je peux faire l'expérience vécue de cette réciprocité parfaite des droits et des devoirs qu'est l'appartenance à une collectivité. Donc voilà, donc un espace intermédiaire entre sphère privée et sphère publique, et aussi un espace de souveraineté commune, soustrait au rapport marchand. Donc l'habitat collectif, mais comme d'autres formes associatives, est un espace intermédiaire et à ce titre socialise en quelque sorte aux vertus du débat et à l'action commune, et permet une mutualisation à la base de nouveaux rapports sociaux plus solidaires. Donc voilà pour l'habitat collectif. Je vais passer aux jardins collectifs, qui sont aussi... les jardins collectifs sont anciens, c'était même la règle. Plutôt que la propriété privée, il y avait une mise en commun des cultures. Mais on peut aussi faire remonter ces jardins collectifs à la révolte des diggers en Angleterre au XVIIe siècle, qui squattaient des terres cultivables pour résister au mouvement des enclosures, justement. Et en France, bon, quand on parle jardin collectif, on pense surtout aux jardins de Cocagne ou aux jardins partagés. Je vais m'attarder un peu sur les jardins partagés. Certaines associations de jardins partagés sont finalement largement orientées, voire téléguidées par les pouvoirs publics aujourd'hui. Pour reprendre les termes d'un informateur, hein, c'est, je le cite, hein, une volonté de contrôle et d'orientation par les pouvoirs publics. Alors, c'est notamment le cas de plusieurs expériences dans des quartiers populaires à Caen, dans le cadre de ce qu'on appelle le développement social local. Alors, les buts de ces jardins sont à la fois d'améliorer l'alimentation, de faire face à la précarité alimentaire, mais c'est aussi favoriser le lien social et faire émerger les personnes comme sujet politique, c'est-à-dire qu'ils développer l'action politique des personnes par elles-mêmes, quoi. C'est un peu ça l'idée. Alors évidemment, cette dernière ambition, développer l'action politique des personnes par elles-mêmes, se heurte très souvent à la réticence des politiques et des administrations. D'ailleurs, le plus souvent dans ces expériences-là, il persiste de la stratification sociale et des enjeux de classe, avec les pouvoirs publics et parapublics, parce que c'est parapublic parce que c'est aussi les bailleurs sociaux, hein, souvent qui sont là-dedans, par exemple. Finalement, les pouvoirs publics et parapublics ont le dernier mot et sont finalement tout en haut de l'échelle. La CAF, souvent, joue le rôle d'intermédiaire. avec des associations reconnues par les pouvoirs publics comme légitimes. Donc ce sont les pouvoirs publics qui vont chercher les associations qu'ils considèrent comme légitimes. Et au dernier échelon, il y a les collectifs d'habitants. Donc ces projets restent pris dans des inégalités de statut, une logique verticale. Et en même temps, face à la mise sous tutelle des pouvoirs publics, correspond aussi une sorte d'instrumentalisation à l'envers, en quelque sorte. C'est-à-dire que les collectifs d'habitants ne sont pas dupes de ces logiques-là. Et en même temps, ils vont jouer avec les règles du jeu. Et comme ils le disent, hein, c'est la parole de quelqu'un à qui je me suis entretenu, qui fait partie d'un collectif d'habitants. Hein, finalement, on va chercher le fric où il est, quoi. Et ils aménagent 2-3 trucs pour répondre aux exigences, et ils en profitent aussi pour faire autre chose. Donc finalement, ils se rapprochent du pouvoir institué pour, en définitive, permettre de construire, parfois contre lui, y compris contre lui, mais avec ses moyens, des espaces d'autonomie. Donc, par exemple, ça peut être un détournement des matériels fournis pour des activités sans autorisation. On peut imaginer aussi l'utilisation des produits du jardin, hein, que le jardin a permis de récolter pour aider à une occupation d'une école qui va fermer, par exemple. Par ailleurs, il y a, je crois, quelque chose d'important pour la question de l'émancipation dans cette pratique collective du jardin. Jardiner, c'est finalement, hein, comme le dit Marx, atténuer ce qu'il appelait la faille métabolique, c'est-à-dire la séparation des êtres humains avec leurs conditions naturelles d'existence. Alors pour Marx, c'était l'arrachement des gens à la possibilité de cultiver la terre du fait des mouvements du mouvement des enclosures et du développement de la propriété privée. Et finalement, le jardin collectif vient atténuer cette rupture de la relation métabolique entre les personnes et la terre. Alors jardiner, c'est aussi prendre la question fondamentale, il me semble, de l'autonomie alimentaire en ville. Et moi, je pense que la question de l'émancipation est d'abord celle de l'autonomie. Hein, l'émancipation passe par l'autonomie, c'est-à-dire des lois pour soi, à partir de soi, c'est-à-dire l'emprise collective sur sa vie et ses conditions d'existence. Alors l'autonomie n'épuise peut-être pas la notion d'émancipation, mais il me semble qu'elle est une condition, au moins de l'émancipation, ce qui est pas nouveau, hein, ce qu'on retrouve déjà chez les premiers socialistes ou dans la première internationale, etc. Hein. Donc voilà, l'émancipation passe par l'autonomie, et en plus, il me semble que l'autonomie matérielle renforce l'autonomie politique, voire est une condition de l'autonomie politique. C'est aussi ce qu'on a vu, hein, avec l'exemple du Chiapas et des zapatistes. Finalement, il y a une adhésion au projet politique zapatiste tant qu'il permet de bouffer, quoi. À partir du moment où ça permet plus de bouffer, on va voir ailleurs, quoi. Alors c'est pas pour ça, hein, aussi que l'autonomie matérielle entraîne obligatoirement une autonomie politique. Je pense notamment à Cuba, où vous avez des quartiers populaires entiers qui sont dans une quasi-autonomie alimentaire grâce à des jardins collectifs, et en même temps l'autonomie politique, elle est quasiment absente, quoi. Voilà. Bon, c'est pas automatique, mais voilà, il me semble que l'autonomie matérielle peut aider à l'autonomie politique, qui est base de l'émancipation ou condition de l'émancipation. Alors par ailleurs, prendre en compte les besoins immédiats et matériels, c'est aussi éviter que la question de l'émancipation devienne une pure abstraction et soit toujours renvoyée à un futur lointain. Alors là, je pense notamment à Mike Davis, qui raconte cette alliance improbable entre Turner, qui était un architecte anarchiste, et McNamara, qui était alors président de la Banque mondiale et qui a été le chef militaire pendant la guerre du Vietnam. Alors, ce Turner et ce McNamara vont s'entendre tous les deux pour favoriser l'auto-organisation dans les bidonvilles. Évidemment, là où il y en a un qui pensait autonomie et émancipation, l'autre voyait surtout l'occasion de promouvoir le désengagement financier de l'État et le développement des solutions capitalistes, c'est-à-dire le microcrédit, la micro-entreprise, les privatisations qui vont avec, etc. Donc le fait, finalement, de ne pas oublier la situation telle qu'elle est, la situation matérielle aussi, hein, permet probablement d'éviter ce genre d'écueil, et finalement permet d'éviter de créer une sorte d'autogestion de sa misère, donc autogérer la misère, on a vu mieux, hein, à mon avis, comme émancipation, quoi. Bon alors, jardin collectif, habitat collectif, vous me direz c'est bien de jardiner et habiter, mais ça va peut-être pas suffire pour s'émanciper. Et en même temps, on peut aussi les envisager comme ce qu'appelle, c'est John Holloway qui appelle ça des brèches pour une politique de la dignité, ce qui me semble assez intéressant comme terme, c'est-à-dire des manières de faire différemment, de façon un peu pragmatique, et qui permettent de tendre vers des rapports sociaux plus solidaires et plus égalitaires, et surtout d'expérimenter des formes d'auto-organisation. Donc pour Holloway, les brèches pour une politique de la dignité, c'est ce qui vient finalement fragiliser ce qu'il appelle la synthèse sociale capitaliste, celle-ci étant pensée comme une force de cohésion sociale avec laquelle il faudrait rompre. Donc avec un postulat, hein, pour Holloway, c'est celui que l'exercice de la liberté aujourd'hui passe par la révolte, ou au moins par une résistance par rapport à ce que nous impose ce qu'il appelle la synthèse sociale capitaliste. Alors en même temps, ces brèches que peuvent être le jardin collectif, l'habitat collectif, ou d'autres expériences, ne sont pas à idéaliser, puisqu'elles restent prises dans les structures capitalistes, elles restent assiégées par des processus de marchandisation, de bureaucratisation, de stratification. Elles sont donc nécessairement incomplètes, expérimentales et contradictoires. C'est pourquoi, à mon avis, on ne peut pas faire l'économie d'une transformation radicale des structures sociales pour viser l'émancipation, mais il peut d'ores et déjà exister dans ces fameuses brèches pour une politique de la dignité, une certaine réappropriation de sa vie quotidienne. Alors, je vais terminer sur le collectif militant, un collectif militant qui a lutté par rapport à la question urbaine entre 2009 et 2011, c'est le collectif de réappropriation de l'espace public. Qui fait partie de tous ces nouveaux collectifs autonomes locaux, hein, qui ont essaimé ces dernières années sur diverses thématiques, sur les panneaux publicitaires en ville, sur la vidéosurveillance, sur les éclairages commerciaux la nuit, le maintien des éclairages commerciaux la nuit, etc. Donc ce collectif cannais, justement, s'en prend à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire avec différents thèmes, notamment l'urbanisme sécuritaire, la gentrification, la marchandisation de l'espace public, s'en prend à la question des rythmes de la vie urbaine, à la publicité, à l'envahissement par la publicité, au quasi-monopole de la voiture en ville, à la pollution en général, et revendique la gratuité des transports publics. Donc c'est un collectif plurithématique, hein, qui a d'ailleurs été créé à la fois par des individus, mais aussi par des collectifs qui lui préexistaient. Un collectif Vélorussion, qui est donc pour la promotion du vélo et une critique de l'urbanisme fonctionnaliste et énergivore. Clan du Néon, qui avait pour vocation d'éteindre les néons publicitaires qui restaient allumés la nuit. Et deux collectifs, Transport Gratuit et Collectif Canet contre la pub. Bon, là, les noms me paraissent assez clairs. Hein. Voilà. Donc, voilà, le collectif de réappropriation de l'espace public qui regroupe finalement des individus et ces quatre collectifs-là qui vont, pour une grande partie, fondre au fur et à mesure dans ce collectif. Alors, c'est un collectif informel, dans lequel on entre et on sort à volonté, sans obligation de participation, sans adhésion officielle. En même temps, les membres s'emparent et s'approprient tout autant la cause visée que l'organisation du collectif, et surtout passent directement à l'action. Hein, parce que l'activité essentielle du collectif, outre des tracts, affiches, projections et débats, reposait essentiellement sur des petites actions directes simples, est facilement accessible, du genre réappropriation des places publiques avec concerts, théâtres et autres jeux, recouvrement ou enlevage de publicité, envahissement de transports publics en groupe sans payer, manifestation à vélo, extinction des enseignes lumineuses des commerces, recouvrement et signalisation des caméras de vidéosurveillance ou encore occupation des locaux de Twisto. Donc on est dans la mise en pratique un peu de ce que Henri Lefebvre appelait le droit à la ville. Déjà le nom renvoie au droit à la ville de Lefebvre, réappropriation de l'espace public. Et Lefebvre appelait justement à renouer avec l'urbain, parce que pour lui, l'urbain a été désagrégé par l'industrialisation, par l'urbanisme aussi des technocrates, et la ville finalement a été colonisée par la valeur d'échange, c'est-à-dire par l'économie. Et le Crêpe vise bien, par ses actions, à renouer avec l'urbain, ce signifiant que Lefebvre définissait justement comme la forme mentale et sociale, celle de la simultanéité, du rassemblement, de la convergence, la rencontre, des rencontres. Et la réappropriation par les personnes elles-mêmes, c'est bien ce à quoi appelait Lefebvre, qui était quand même un ardent défenseur de l'autogestion, pour rompre avec ce qu'il considérait comme, je le cite, une vie quotidienne téléguidée. Alors ce collectif a connu, le CREP, collectif de réappropriation de l'espace public, connu un certain succès au départ, notamment du fait de la dimension ludique et nouvelle de ses actions. Ça correspond à l'objectif de ce collectif qui était finalement, je cite un membre, de sensibiliser et de contribuer à montrer qu'on peut faire des choses dans la rue sans autorisation et qu'il y a encore des choses gratuites. Donc ce ne sont pas les pouvoirs publics qui sont interpellés par les actions, mais les passants et la société civile en général. Donc là, on est dans une démarche militante qui semble classique, interpellée, si ce n'est qu'il y a rupture avec l'État, et c'est donc la société civile qui est visée directement. Et en plus, il y a l'idée d'agir directement pour obtenir ce qui est visé, même de façon éphémère. Donc on veut se réapproprier l'espace public, et bien on y va et on l'occupe. Voilà. Alors il y a toutefois une revendication un peu plus classique dans ce collectif qui rompt avec cette démarche, c'est la revendication des transports gratuits qui la passe par interpeller les pouvoirs publics à travers des actions directes, à travers un rapport de force pour ce collectif. Alors pour ce qui est du fonctionnement du collectif au niveau du financement, il reposait sur l'autofinancement, donc ce sont les participants en réunion qui mettent la main à la poche, et en plus il y avait de l'argent récolté avec boissons, alimentation proposées pendant les actions, un chapeau qui pouvait tourner pendant les concerts, tout cela fonctionnant sur le principe de la contribution libre, c'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. Au niveau des prises de décision et du fonctionnement interne, ça se faisait à la fois à travers une liste partagée de mails et par des réunions régulières ouvertes à tous et toutes, celles-ci reposant sur la démocratie directe et la recherche du consensus, encore une fois. Alors, c'était pas explicité comme tel, mais je ne me souviens pas de vote. S'il y en a eu, je pense que c'était en dernier recours. Je parle sous le contrôle d'un certain nombre de gens qui y ont participé. Alors, toutefois, l'un des membres note un cloisonnement entre les différents collectifs préexistants. Pour lui, je le cite, le CREP n'a pas eu son identité propre, tout le monde se greffait. Donc il semble qu'à un moment donné, davantage qu'une association ou un collectif clairement identifié, le CREP soit resté une coordination de collectifs, du moins au début, et ce cloisonnement se vérifiait notamment dans les tracts distribués où s'enchaînaient les thématiques les unes après les autres, passant de la manifestation à vélo à la gratuité des transports, puis l'envahissement des rues par la publicité, etc. Donc il y avait un côté un peu mécanique et artificiel au départ, donc une difficulté à saisir la question urbaine en général sans cloisonnement entre des thèmes particuliers. Et ce cloisonnement du départ a été renforcé par une logique un peu activiste dans les premiers temps. Là encore, je cite un membre, on n'a pas pris beaucoup de temps pour parler de fond. Après la première réunion, on a organisé une journée d'action rapidement. Finalement, l'action au départ a primé un peu sur le sens. C'est l'action en elle-même qui était chargée de rassembler les personnes avec des points de vue divergents. Mais là encore, ça va s'infléchir avec le temps. Et il va même y avoir des discussions polémiques sur les principes que défendront le collectif. J'y reviendrai. Alors, le CREP était un collectif ouvert, largement teinté d'idéologie libertaire, et donc avec une critique des logiques bureaucratiques que l'on retrouve, logiques bureaucratiques qu'on retrouve pourtant souvent dans les associations militantes, partis et syndicats. Pour autant, en même temps, la parole était captée, les débats et actions orientées, la logistique développée par un petit groupe de personnes, une dizaine environ, tout au plus, alors que les actions pouvaient rassembler jusqu'à 60 personnes. Et finalement, si cette tension avait tendance à s'effacer au moment des actions, elle émergeait en revanche dans les discours, dans le discours politique, les textes écrits c'est-à-dire dans le contenu politique qui sont finalement élaborés par ceux qui sont présents, qui sont les plus impliqués et qui sont souvent aussi les plus politisés. Et c'est à mon avis là une contradiction indépassable, même si elle peut être plus ou moins prononcée. Et en tout cas, la question de l'élargissement et de la sortie de l'entre-soi est une question qui me semble fondamentale pour toute velléité émancipatrice, pour toute action qui se veut porter vers l'émancipation. Donc il y a une distance entre les plus impliqués et ceux qui se muent finalement en suiveurs, et la prise en compte de cette distance est à mon avis une condition pour un processus d'émancipation. En tout cas, cette question ressurgit dans toutes les initiatives à vocation émancipatrice. Alors ici, cette prise en compte de cette distance se traduisait par une conflictualité maîtrisée pendant les actions, qu'elle reste partageable par le plus grand nombre, par l'accent mis aussi sur la convivialité, par des rendez-vous réguliers pendant ces journées d'action, hein, ce qui permettait en fait que des personnes qui se reconnaissaient pas dans un type d'action puissent participer à la suivante ou à la précédente, etc. Donc voilà, il y a tout un tas de mécanismes comme ça qui ont été mis en place, mais qui pour autant n'ont pas permis une réduction, un effacement de cette distance. Donc, contradiction indépassable, à la fois parce que nos sociétés valorisent le passager clandestin, hein, l'engagement minimal, au point que ce genre de collectif survit en reposant sur le volontarisme de quelques personnes, aussi parce qu'il y a des logiques internes, c'est-à-dire des personnes prêtes à prendre en main l'organisation, mais surtout parce que les plus actifs du collectif revendiquent certes une ouverture, mais définissent aussi des valeurs et principes, c'est-à-dire un commun à partir duquel les rencontres sont possibles. Donc pour s'ouvrir, il faut définir du commun, mais justement ce commun ne peut pas être partagé par tous, il est donc situé politiquement. Et ce n'est donc pas une ouverture universelle effective, mais seulement potentielle, avec pour base ce qu'on pourrait appeler une dimension institutionnelle et politique manifestée, qui exclut de fait un certain nombre de personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces principes et valeurs, ce qui veut dire que la libre association regroupe des personnes qui partagent quelque chose, ce qui veut dire aussi qu'en même temps, elle se compose de frontières et d'exclusions. Donc lorsque les associés définissent des valeurs communes, des règles tacites ou explicites, un projet collectif, il se positionne, ce qui crée pour s'émanciper résulte d'une délibération polémique. Hein, c'est ça qui me semble important, c'est que ça résulte d'une délibération polémique, ce qui veut dire que l'émancipation se situe essentiellement sur un plan politique et conflictuel. Donc il faut d'abord se mettre d'accord sur des valeurs et principes, sur le contenu, sachant qu'il y a des expressions divergentes là-dessus. Même si on pourrait cerner des contours d'un contenu à l'émancipation, voilà, liberté, égalité, solidarité, bon voilà, mais encore que quoi, bon, ça peut être facilement récupérable, hein. Imaginons égalité et réconciliation, voilà, ce sont des fachos, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des émancipateurs là-dedans, voilà, bon, après on peut y mettre du contenu, et je pense qu'il y a quand même, on peut cerner des contours d'un contenu à l'émancipation, bon, l'autonomie pour moi étant un contenu qui donne sens à l'émancipation, par exemple. Alors finalement, ce collectif a périclité après quelques années, ce qui est classique pour ce type de collectif. Alors il y a plusieurs raisons, une certaine routinisation, un non-renouvellement de ce noyau dur, en quelque sorte, une efficacité aussi relative. Pour autant, ce collectif faisait vivre un espace public oppositionnel. Donc là, je vais reprendre un peu cette idée d'Oscar Necht, ce qu'il définit par espace public oppositionnel. Finalement, ce sont, je le cite, tous les potentiels humains rebelles à la recherche d'un mode d'expression propre. Donc, il y a l'idée d'auto-organisation derrière, et bien sûr d'opposition aux structures et institutions dominantes. Or, le CREP permet aux personnes de faire l'expérience des pratiques d'action directe, de démocratie directe aussi, la recherche du consensus étant pour moi probablement la forme la plus démocratique, aussi la plus compliquée, mais qui demande en tout cas un apprentissage long, mais qui voilà, qui, ça permet cette expérience dans ce collectif, ça permet de faire l'expérience aussi des pratiques de démocratie directe, inculque les vertus du débat, socialise à l'engagement et finalement infléchit la délégation. Donc finalement, ce collectif agit comme institution de transmission de savoir et de pratiques qui sont à la base des mouvements d'émancipation. En outre, il a pour objet un enjeu contemporain majeur, l'urbanisation et l'aménagement du territoire et tous les phénomènes liés aux inégalités, à des possessions, aux nouvelles technologies et à l'environnement qui s'y rapportent. Alors, il y a... Combien de temps, à peu près ? J'ai le temps encore un peu. Ouais, j'en ai plus pour longtemps. Alors, il y a bien d'autres exemples d'associations qui œuvrent à l'émancipation autour de la question urbaine et qui correspondent à ce que NECT appelle justement l'espace public oppositionnel. Je pense notamment aux squats politiques. Alors, ce sont quoi les squats politiques ? Ce sont un des lieux vides occupés qui ne sont pas seulement des lieux de vie et d'habitation, mais aussi des espaces de confrontation avec le pouvoir et d'expérimentation d'autres rapports sociaux. Les squats politiques me semblent particulièrement intéressants au sujet de la question urbaine, notamment par leur histoire. Ça commence dès la fin du XIXe siècle dans les milieux anarchistes. Ça va être particulièrement incisif avec les mouvements autonomes dans les années 70. Particulièrement intéressant aussi par diffusion géographique. C'est un mouvement pluriel, mais qui est quelque chose comme une sorte de mouvement international, ou du moins dans le sens où il y a un partage de pratiques, de symboles, et surtout il y a une solidarité qui traverse les frontières. Par exemple, quand vous avez un squat politique historique, qui est celui d'Omgunsjøset, qui est expulsé au Danemark, vous avez des gens de toute l'Europe qui vont le soutenir et le défendre. Donc voilà, il y a une sorte de commun que partage ce mouvement-là. Donc, on peut parler de ce mouvement squat. Et particulièrement intéressant aussi par le fait que ce sont à la fois des lieux de vie, des lieux de lutte, et aussi des lieux de contre-culture. Alors, vous pouvez y trouver des concerts, des bibliothèques, des jardins collectifs, des zones de gratuité, des réunions politiques, etc. Donc voilà, tout un tas de choses. Et puis aussi, dans une situation de crise qui s'aggrave, comme aujourd'hui, ce ne serait pas étonnant que ce type de pratique se diffuse plus largement, de la même manière que les jardins collectifs, l'habitat collectif dans ses différentes formes aussi. Donc, pour conclure, finalement, par rapport aux apports que ça peut nous donner pour penser l'émancipation, moi, il me semble que ces différentes expériences tendent à montrer que l'émancipation se trouve un peu dans une conjonction entre des résistances un peu ordinaires, le fait de mutualiser, s'associer pour répondre à des besoins immédiats, qu'ils soient matériels, sociaux, affectifs ou politiques, et l'habitat collectif et les jardins collectifs entrent un peu dans ce cadre, et de l'autre côté, la forme du mouvement et la dimension de lutte, c'est-à-dire l'opposition pour conquérir l'émancipation. Donc, il n'y aurait pas d'émancipation possible sans lutte dans les conditions actuelles. C'est un peu ça l'idée, et je terminerai sur une sorte un peu de typologie. Finalement, il y a émancipation, enfin les initiatives émancipatrices, ce serait quand il y a un dépassement de la question des conditions matérielles d'existence, mais sans les oublier, justement, sans les oublier, quand ça crée des brèches qui renforcent la solidarité, quand ça socialise à l'auto-organisation et permet l'expérimentation de nouveaux rapports sociaux plus libres, plus solidaires et plus égalitaires, et enfin, quand ça s'inscrit dans l'espace public oppositionnel, ce qui veut dire quand elle s'articule, quand ces initiatives-là s'articulent aux mouvements sociaux qui œuvrent à un approfondissement de l'autonomie. Voilà.